pendant que les enfants quittent la salle, je vous inviterai à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, s'il vous plaît. Et ce matin, c'est un privilège qu'on a d'être réunis ensemble, dans sa présence, de recevoir ses instructions et de pouvoir adorer Dieu au travers de sa parole, n'est-ce pas? Quel privilège! 1 Thessaloniciens, chapitre 4, j'aimerais qu'on lise les versets 13 jusqu'à 18, finalement, jusqu'à la fin du chapitre. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On va prier. Notre Dieu, notre Père, quel privilège d'ouvrir ta parole ce matin. Quel privilège d'avoir cette parole que tu nous as laissée, qui est inspirée, qui est vraie, qui est véritable, qui est écrite pour nous instruire, pour nous façonner à ton image. Oh, ce matin, Père, on s'en remet entre tes mains. Moi, je me remets entre tes mains, afin que ta parole puisse toucher nos cœurs, puisse faire ton œuvre dans cette Église, dans cette assemblée ce matin. Que ton nom soit glorifié. Fortifie-nous. Fortifie-nous dans notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Le titre que j'ai donné à mon message ce matin, « Consolez-vous donc les uns les autres. » Consolez-vous donc. Le texte qu'on vient de lire, évidemment, c'est un texte qu'on lit souvent et que vous entendez souvent lors de funérailles. N'est-ce pas? Et évidemment, quand il y a des funérailles, c'est pratiquement toujours le même texte, ou en tout cas, ce texte est cité, où on encourage et on va réconforter nos bien-aimés parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille, une personne qui leur est chère. Et c'est un message d'espérance. C'est un message d'espoir qui nous encourage, qui console nos cœurs. D'ailleurs, c'est ce que Paul a dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, le Seigneur, il veut nous encourager. C'est un Dieu qui nous réconforte. Et dans son plan initial, le Seigneur, il ne veut pas nous laisser comme des orphelins. Il ne veut pas nous laisser à nous-mêmes. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, puis il veut vraiment continuer à nous consoler, à nous encourager, à nous fortifier. Il y a une histoire que je me rappelle. C'est une vieille histoire. Je sais que ça ne touche pas personne ici, là. Soyez rassurés. Il y avait dans une assemblée une dame qui aimait encourager les autres membres de l'assemblée. C'était une dame qui était généreuse. Elle avait un cœur gros de même. Gros de même. Elle avait un grand cœur. Puis cette dame, pour encourager les chrétiens, pour les aider ou quoi que ce soit, elle cuisait des tartes. Mais ces tartes étaient affreuses. C'était épouvantable comme tarte. Comprenez-vous? Mais le geste était là. L'intention était là. Puis son cœur était là. Mais quand elle s'approchait de quelqu'un, les gens disaient, oh boy. Ils voulaient pas lui déplaire. Ils voulaient pas lui faire de peine. Mais ils savaient qu'elle allait se faire offrir une tarte. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas comme ici, là. Vos tartes, mesdames, sont toutes merveilleuses. Et croyez-moi. Croyez-moi. C'est vrai ce que je vous dis. J'ai goûté à toutes les tartes. C'est ça, lors des buffets. Mais cette dame, écoutez, c'est une dame de cœur. Puis, Puis là, le pasteur, un jour, ben là, son épouse, dans sa parenté, il y avait eu de la mortalité, puis son épouse a dû être partie une semaine ou deux, et puis le pasteur était tout seul à la maison. Là, David, c'est un jour, ça t'arrive, des tartes. OK. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive le dimanche matin, cette dame remplie de cœur qui lui dit, écoute, pasteur, je veux t'encourager. Et je t'ai cuisiné une belle tarte. Là, le pasteur, il veut être gentil, puis il veut être aimable, puis il remercie la dame, merci de l'attention que tu portes pour moi. Mais là, dans sa tête, là, imaginez le petit hamster qui travaillait, il disait, mes amis, qu'est-ce que je vais faire avec cette foutue tarte? Comment je vais m'y prendre pour pas la décevoir, tu sais, cette dame? Puis là, il n'arrêtait pas de penser à ça, parce qu'il dit, je sais, quand je vais revenir à l'église, ça va demander comment j'ai trouvé sa tarte. Comment est-ce qu'elle était, sa tarte? Mais il ne pouvait pas la manger. C'était impossible. Il avait essayé, puis c'était totalement mission impossible de manger une tarte comme cela. Alors là, il était chez lui, puis il disait, Seigneur, comment je pourrais faire, ou qu'est-ce que je pourrais lui dire pour pas la décevoir? Et puis là, j'ai une idée. C'est bon. Fait qu'il arrive le dimanche soir, la dame a dit, puis pasteur, première chose en arrivant, aussitôt qu'il franchit la porte, comment, ah, puis là, il avait pris la tarte, puis il l'avait jetée aux poubelles, tu sais, parce qu'il pouvait rien faire avec. C'était désolant. C'était le geste et l'attention qui était là, mais la tarte, c'était dégueulasse. Alors, il avait jeté la tarte à la poubelle, puis là, la dame arrive le soir, puis elle dit, pasteur, comment as-tu trouvé ma tarte? Mais vous savez, ça, une tarte comme la vôtre, là, ça reste pas longtemps chez nous. Alors, comme ça, il avait jamais déçu la dame. Il s'était débarrassé de la tarte, puis elle était toute contente de l'avoir encouragée. Le Seigneur veut nous encourager, chers frères et sœurs, ce matin. Il veut nous réconforter. Mais si vous faites des tartes dégueulasses, offrez-moi-en pour. Mais des choses qui peuvent arriver. Non, le Seigneur nous promet qu'il veut nous consoler. Dans Jean, chapitre 14, c'est écrit, « Croyez en Dieu, croyez en moi. » Hein? C'est quoi ça dit? Un blanc de mémoire. Vous le savez tout par cœur. Non? Alors, que votre cœur ne se trouble point, j'ai oublié la première partie du verset, et c'est ça que je voulais, ça cliquait pas. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit avec un cœur troublé, il veut qu'on soit réconforté. Et le Seigneur se fait un devoir de nous réconforter par son Saint-Esprit, par les Écritures qu'il nous a données. Il veut qu'on soit encouragé, réconforté, consolé. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde ensemble quelques certitudes réconfortantes que le Seigneur nous a laissées. Par exemple, une des premières certitudes réconfortantes, ce sont les promesses. Dieu nous a donné des promesses. Et par ces promesses-là, notre cœur peut être encouragé, bien sûr. Parce que si les promesses viennent de Dieu, écoutez, c'est encourageant. 1 Roi, chapitre 8. Alors, si vous voulez venir avec moi dans 1 Roi. Au chapitre 8. À partir du verset 54. 1 Roi 8. 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. » Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Des promesses que Dieu nous donne, ils sont toujours réalisées. Dans Romains, chapitre 4, verset 21, nous avons le même genre de promesses qui nous est faites. Romains, chapitre 4, verset 21. À partir du verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, ne considéra point que son corps était déjà usé, on parle d'Abraham ici, puisqu'il avait près de 120 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hé, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a donné des promesses. Mais il n'a pas donné des promesses pour nous donner des paroles en l'air ou juste garrocher toutes sortes de promesses. Ce n'est pas des promesses électorales, là. Hein? C'est des promesses bibliques. C'est des promesses qui viennent de Dieu. Et toutes les promesses qu'il nous a données sont toutes vérifiables, sont toutes quantitables. Et on peut s'assurer que ces promesses-là, ils sont une garantie pour nous. J'aimerais vous donner une illustration dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vous rappelle l'histoire où Paul et Silas étaient en prison avec le joaillier. Actes des Apôtres, chapitre 16. On va lire le texte et son contexte pour nous placer un petit peu dans l'atmosphère. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il est en prison, là. Et les prisonniers les entendaient. Peut-être qu'il y en a qui disaient, « Ferme-toi! » C'est bon, ça le dit pas. Peut-être aussi qu'il était édifié et encouragé. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le joaillier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes ici. » Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Imaginez la situation. Et à l'époque, les gardiens de prison, pas comme aujourd'hui, les prisons, là, quand les gardiens de prison avaient le malheur d'échapper à un criminel, ça en était fini pour eux. Là. Ils préféraient se suicider que d'être humiliés, que d'être fouettés, d'être pendus ou quoi que ce soit. Donc, c'était toute une catastrophe pour le joaillier. Imaginez, là. Un tremblement de terre, comme il y a eu en Haïti. Vous savez qu'en Haïti, le même genre de tremblement de terre a eu lieu. Les prisons se sont vidées aussi. Mais eux, ils n'ont pas attendu, puis ils se sont sauvés, eux. Hein? Ils se sont sauvés, puis ils ont été commis des crimes. Mais là, notre gang de bandits était tous restés là avec Paul et Silas, qui, eux, n'étaient pas des criminels, on le sait. Mais ils étaient là. Pourquoi ils sont restés là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être parce qu'ils avaient entendu les chants, puis les prières, puis les louanges que les deux autres faisaient. Puis je ne sais pas. Bref, imaginez le joaillier qui était tout en soir, tout en crainte. Et puis que Paul et Silas lui dit, pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que c'est une promesse pour vous ce matin? S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'est pas sauvé ce matin, moi, je peux vous dire une chose. C'est la même chose que Paul et Silas pourraient vous dire. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Parce que le Seigneur veut vous sauver. Parce que c'est ça les promesses que le Seigneur nous fait. Les promesses de Dieu sont immuables. Ils sont vérifiés. Ils sont testés, éprouvés. Et laissez-moi vous dire que les promesses de Dieu sont fiables. Comment je peux ne pas être encouragé, réconforté? Puis ça, c'est juste un exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres promesses que Dieu vous a données? Bien sûr, vous pourriez m'en nommer. Je demanderai à chaque personne de me nommer une promesse, et je suis persuadé que vous en avez. Des promesses qui ont touché particulièrement votre cœur à un moment donné, dans votre vie ou à un autre moment donné. Alors, les promesses sont là pour nous encourager, pour nous fortifier. Une deuxième certitude réconfortante que nous avons dans les Écritures, c'est le fondement qui est fiable. Le fondement, nous avons des fondations éprouvées. Nous avons des fondations solides. Et venez avec moi dans Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28. N'oubliez pas, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de nous consoler, de nous encourager, son peuple. Il arrive toutes sortes de situations, toutes sortes de moments qui se produisent pour vous dans la semaine. Rappelez-vous que le Seigneur, la première mission qu'il a pour vous, c'est de vous consoler, de vous réconforter. C'est bon de savoir qu'on a un Dieu qui nous réconforte, n'est-ce pas? Amen, Seigneur. Ésaïe, chapitre 28, petit verset 14. « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Est-ce que ça, c'est solide comme fondement? Pas en tout, pas fiable, là. Si vous avez ce fondement-là, là, croyez-moi, vous êtes complètement dans l'instabilité. Mais le verset 16, par contre, nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Une pierre angulaire de prix. Dans Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 7, ça dit que la pierre qu'ont rejeté les hommes, celle qui est devenue la principale de l'angle, était Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour ça qu'il a dit que sur cette pierre, qui est lui-même la fondation de l'Église, il bâtirait son Église. Ce n'était pas sur la autre pierre, ni le premier pape. Mais c'était sur Jésus-Christ qui était la fondation. Il est notre fondation ce matin. Il est notre footing. Le fondement de ma vie spirituelle repose sur Jésus-Christ. Imaginez, ce n'est pas une religion, là. Oh, non, 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 pas parce que je vais à l'Église baptiste, là, que j'ai un fondement solide là, plus que d'autres, là. Non, non, absolument pas, là. Seulement si Jésus-Christ dans mon cœur, comme mon sauveur personnel, j'ai un solide et franchement un fondement totalement éprouvé et éprouvable pour ma vie spirituelle. Éphésiens chapitre 2. Je me pose une question ce matin, je vous pose cette question. Avez-vous ce fondement solide? Est-ce que votre foi repose sur ce fondement? Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ pour être sauvé? Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas sauvés ici. Je ne connais pas vos cœurs. Le Seigneur, lui, le sait. Le Saint-Esprit le sait. Et au moment où on se parle ce matin, il sonde vos cœurs. Et devant lui, il n'y a pas grand cœur qui ne sont pas à découvert. On est tous nus devant lui. Nos cœurs sont à nu. Il nous voit tels que nous sommes. Donc, on ne peut pas se cacher. Vous pouvez avoir un large sourire ce matin, mais dans le fond de votre cœur, cachez une profonde tristesse. Dieu la connaît, cette tristesse. Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Fondement, édifié sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Oh, si vous avez Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin, vous êtes sur du solide. Solide, ça? Vous êtes sur du solide. Non, des fois, il y en a qui mettent des trappes. Tu sais, quand le prédicateur est trop long. Le casque reste en haut. Le gars est parti. Une troisième certitude réconfortante que j'aimerais partager avec vous ce matin, ce sont les récompenses qui sont certaines. Les récompenses. Tout le monde aime les récompenses, n'est-ce pas? Hey, soyez pas hypocrites. Tout le monde aime les récompenses? Ah, c'est ça, il me semblait. Je pensais que j'étais tout seul. Hey, tout le monde, vraiment, aime les récompenses. Même les petits chiens, les gros chiens, les enfants, les parents, on aime tout ça, les récompenses, hein? C'est vrai, là, un chien, là, tu dis, Fido, viens ici, là. Va chez la baballe, là. Va chez la baballe. Fido, va chez la balle! Non, mais des fois, il y a des chiens qui sont mous, mais ils sont donc. Puis là, il part, hein? Puis il revient, puis il met la balle, puis... C'est quoi, vous pensez qu'il veut? Une récompense! C'est ça qu'il veut! Là, tu te vas d'abord dire, bon, c'est correct, c'est beau. Pas content, là, hein? Il va japper après vous, il va aboyer après vous. Pourquoi? Parce qu'il veut une récompense. C'est normal, c'est naturel. Je vous dis pas que la vie chrétienne, on doit la vivre dans le but d'obtenir des récompenses, loin de là. Oh non, faut rien faire pour obtenir des récompenses. Mais les récompenses, la Bible nous en parle, puis ce sont des récompenses qui sont certaines pour nous. Matthieu, chapitre 10, verset 42. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour Québécois. Non, je ne fais pas de publicité pour une entreprise. Cette partie de message est payée gracieusement par Québécois. Mais c'est mon commanditaire. C'est pas vrai. Et j'ai eu le privilège de rencontrer le fondateur de Québécois, M. Pierre Pelladeau, pas Pierre Carl, Pierre Pelladeau, père. Et peu importe ce que les gens pouvaient penser de cet homme, c'était quand même un visionnaire. Et il y avait un slogan qui me faisait bien rire quand il nous le partageait, parce que vous savez que c'est un vrai gagnant. C'est un winner. Hein? Et lui avait un slogan, puis il disait, écoutez mes amis, prenez-vous pas trop au sérieux quand vous travaillez. Là. Ce que vous devez faire, vous devez jouer pour gagner. Comprenez-vous? Alors, c'est la même chose. Jouer pour gagner. Alors, notre vie spirituelle, nous, on ne va pas servir le Seigneur pour gagner. On ne va pas servir le Seigneur parce qu'on a des récompenses, mais le Seigneur nous donne les récompenses. C'est ça, sa grâce qui est merveilleuse, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous réconforte en nous disant, tu vas avoir des couronnes, tu vas avoir des récompenses, parce que tu auras accompli le service d'une façon fidèle, parce que tu te seras appliqué dans l'œuvre, dans la mission que je t'ai donnée, et ça, peu importe ce que tu dois faire à différents niveaux. Pas tous des pasteurs, pas tous des évangélistes, mais tous, vous êtes des enfants de Dieu et le Seigneur vous a donné une responsabilité. Si vous êtes fidèles, Dieu va tenir compte de ce qu'on aura fait pour nous récompenser. Verset 41, Matthieu 10, verset 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide au prédicateur, à l'un de ses... Non, j'en ai une, j'ai de l'eau, c'est bon. À l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, il ne perdra point sa récompense? Ce que je pense, c'est que le Seigneur a en réserve pour nous des récompenses. Apprenez-vous? Ce n'est pas les choses que je vais mériter, il me les a déjà données. Quand il m'a sauvé, par grâce, ça venait avec, c'est un package. Hein? Il m'a donné les récompenses qui viennent avec mon salut. Et si j'accomplis les choses que le Seigneur me demande de faire, je vais conserver les récompenses. Et ça se peut que j'en perde des récompenses. Si je manque de fidélité, si je m'éloigne, si je tombe ou quoi que ce soit. La Bible me dit que je peux perdre des récompenses. On voit cela dans 1 Corinthiens chapitre 3. J'aimerais ça qu'on puisse aller voir ce texte. Vous connaissez le texte que l'apôtre Paul a donné ici à l'église de Corinthe, qui était une église qui, mes amis, bâtissait avec toutes sortes de trucs, les autres, hein? C'est une église qui avait des récompenses. Certains d'entre eux allaient garder leurs récompenses, mais selon moi, certains d'entre eux aussi allaient les perdre. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qui est le fondement de Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Vous savez, ici, on a des matériaux différents. Là. On commence avec l'or. L'or, il doit être chauffé à beaucoup plus intensité pour pouvoir recueillir justement l'or, pour être purifié. Donc, ça t'offre pas mal plus longtemps. Et la fournaise est beaucoup plus ardente. L'argent aussi, pas si pire. Les pierres précieuses, du bois, bien là, ça se consomme. Une année, vous avez un foyer, vous devez mettre une bûche de temps en temps, sinon, il va s'éteindre. Hein? Et puis après ça, on continue. Du foin, pas ça, là, on va pas loin avec ça. Là. Hein? Du foin, là, ça fait un feu de paille. Et le paille, c'est-à-dire le chaume, c'est de la paille. Ça, vraiment, là, tu mets le feu dedans, ça fait ça. Aussitôt que l'allumette, c'est fini. Hein? Et puis, mais ça, c'est l'œuvre de chacun. Hein? Donc, on a l'œuvre de Gaston, on a l'œuvre de nos portiers en arrière, Camille. Je n'ai rien dit, là. Je n'ai pas dit où était le matériau, là. Non, des farces. Mais voyez-vous, mais le Seigneur dit qu'on peut bâtir notre vie spirituelle sur Jésus-Christ avec différents matériaux, de différentes façons. Ça, c'est la qualité des œuvres, la qualité de notre service, la qualité avec laquelle le Seigneur pourra, après ça, verset 13, « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. » Et ça, c'est pas le salut ici, hein. C'est vraiment, vraiment au tribunal de Christ, les récompenses qu'on va savoir, les couronnes qu'on aura ou qu'on n'aura pas. « Car le jour la fera connaître, elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Mais les récompenses sont là pour nous réconforter, pour nous encourager. J'ai une autre certitude à partager avec vous ce matin. C'est l'acceptation. Je suis accepté par Jésus-Christ. Quiconque s'approche de Dieu par Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est automatiquement accepté. Jean, chapitre 6, verset 37, évidemment, on parle du salut ici. Et ça, c'est important, là. C'est vraiment important, si vous ne le connaissez pas, comme votre sauveur ce matin. Moi, le désir de mon cœur et le désir de plusieurs d'entre nous ici, c'est que vous puissiez ne pas quitter cette salle sans avoir la certitude de votre salut, sans avoir reçu ce merveilleux salut, la grâce de Dieu. Le Seigneur veut vous sauver, vous savez, absolument. Le Seigneur veut vous donner la paix, veut vous donner cette délivrance éternelle, veut vous établir dans son royaume, de faire de vous ses enfants. Jean, chapitre 6, verset 37. À partir du verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne, viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » L'acceptation assurée, c'est une acceptation que le Seigneur me fait, c'est certain. Si vous vous approchez de Jésus-Christ ce matin, il ne vous mettra pas dehors. Mais regardez ce qu'il dit au verset 36. Le Seigneur a dit, je vous l'ai dit, puis vous le dites ce matin, je vous l'ai dit que je peux vous sauver. Je vous l'ai dit que je peux vous emmener dans mon royaume. Je vous l'ai dit que je peux vous pardonner vos péchés pour l'éternité. Je vous l'ai dit que je suis prêt à vous accueillir tel que vous êtes. Essayez pas de changer votre vie. Essayez pas de vous améliorer. Essayez pas de changer quoi que ce soit. Reconnaissez que vous êtes un pécheur perdu, que vous avez besoin de Jésus-Christ, que vous avez besoin de vous repentir, que vous avez besoin de sa grâce et de son salut. Je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez point. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Si vous n'êtes pas sauvé, croyez, je vous en supplie. C'est le désir le plus profond de mon cœur. Je ne peux rien faire de plus que de tenter de vous convaincre de le faire, de vous encourager à le faire. Je ne peux pas prendre la décision pour vous. Personne ne peut prendre la décision pour vous. Votre conjoint, votre conjointe ne peut pas prendre la décision pour vous. Personne, votre père, votre mère ne peut pas prendre la décision pour vous. Vous êtes seul dans votre décision. Mais ce matin, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de recevoir Christ comme votre sauveur? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Recevez-le. parce qu'il vous accepte. La parole de Dieu est claire et précise là-dessus. Il nous accepte. Il vous accepte. Présentez-vous à lui. Une autre certitude réconfortante que j'aimerais vous apporter, c'est dans Romains chapitre 8. Et j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu qui est certain. Romains chapitre 8, un texte bien connu, comme vous avez pu remarquer depuis que j'ai ouvert la parole avec vous, c'est des textes que vous connaissez. Les textes de l'Écriture, ce n'est pas des choses avec lesquelles on n'est pas familier. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu, c'est une certitude réconfortante, encourageante, consolante, de savoir que Dieu m'aime, puis à quel point Dieu m'aime. Je ne peux pas faire autrement qu'être consolé, n'est-ce pas? Et ça, peu importe les blessures que je peux avoir, peu importe tous les malheurs que je peux vivre, je dois me rappeler une chose, parce que ça le dit. Ça nous parle d'une série de malheurs qui peut nous arriver. Imaginez, mais qui de ces malheurs pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ? Rien. Absolument rien. Et remarquez ce qu'il dit au verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Comment on veut faire pour être plus que vainqueurs? Imaginez, c'est gros, là. Si je joue avec vous au hockey, puis je gagne, je suis vainqueur. Comment je pourrais faire pour être plus que vainqueur? Remenez-vous, non, mais avec Dieu, là, c'est pour mettre ça vraiment comme il n'y a vraiment pas de doute dans votre esprit. Dieu ne veut pas que vous ayez aucun doute. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Romains, chapitre 5, verset 8, on est juste à côté. Mais Dieu prouve son amour. Pourquoi Dieu nous a prouvé son amour? Il n'a pas d'affaire à nous prouver quoi que ce soit. C'est Dieu. Mais il tenait à nous le prouver parce qu'il veut nous le démontrer jusqu'à quel point il nous a aimés. Jusqu'à quel point il vous aime ce matin. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous ce matin? Vous allez me dire, non, mais es-tu fatigué avec le salut? Ah, il m'achale, il achève-tu? Parce qu'il me parle encore du salut. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, c'est clair que quand vous lisez les Écritures, que le Seigneur va vous parler, parce que dans le verset 8, ça le dit, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et savez-vous pourquoi il est mort pour nous? Parce qu'il nous aimait. Parce qu'il vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous a tellement aimés. Dans Jean chapitre 13, verset 11, on remarque encore un autre qualificatif de son amour. Jean 13, verset 1, j'ai dit verset 11, pardon. Verset 1. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Il ne nous a pas juste aimés, chers frères et sœurs. Il nous a aimés, il nous a comblés de son amour. Comment pouvons-nous lui être infidèles? Comment pouvons-nous déshonorer notre Dieu jour après jour? Devant un Dieu qui nous a à ce point aimés, et qui s'est à ce point donné pour nous. Il a mis le comble à son amour et les gens avec qui il était ici sont des gens qui vont le quitter, qui vont l'abandonner dans les minutes qui vont suivre. Mais pourtant, il a quand même manifesté le plus grand amour que personne ne pouvait leur manifester. Nous sommes l'objet de son amour, chers frères et sœurs. Ce matin, vous êtes l'objet de cet amour. Deux dernières petites choses que je vais terminer après cela. D'autres choses qui nous réconfortent. L'immortalité. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On va aller un petit peu plus rapidement ici. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, il parle de notre corps, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Le Seigneur nous dit que parce que nous sommes sauvés, dans notre salut, nous allons revêtir l'immortalité. Nous avons déjà l'immortalité, nous avons déjà la vie éternelle. Mais quand on va être décédé, on va revêtir l'immortalité. On va être immortel, immortellement fatigant pour les autres. C'est ça. Immortel. Et j'aimerais terminer avec Hébreux, chapitre 6, pour remarquer avec vous une dernière certitude ce matin. Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons une ancre de l'âme sûre et solide. Sûre et solide. Nous sommes bien ancrés en Jésus-Christ. Nous possédons un salut éternel. Nous connaissons un Sauveur extraordinaire et un Dieu souverain qui nous aime, qui nous supporte, qui nous accompagne jour après jour. Chers frères et sœurs, à la lumière de ces Écritures ce matin, j'espère que je vous ai encouragés. J'espère que nos cœurs sont consolés. J'espère qu'on est réconfortés. Et si vous ne connaissez pas Christ, je vous le répète pour une dernière fois, si vous avez l'occasion ce matin, avant même de quitter ces lieux, de le recevoir comme votre Sauveur personnel, prions. Ô notre Dieu, notre Père, que nos cœurs sont dans la joie ce matin, parce que tu nous as sauvés, parce que nous avons ces promesses que tu nous as données, parce que tu vas nous récompenser, parce que tu nous as tellement aimés. Nous avons une ancre solide. Tu nous as rendus immortels. Tu nous donnes toutes sortes de promesses. Tu es notre Dieu véritable. Nous voulons être dans la joie ce matin. Nous voulons être réconfortés, vivre et grandir et marcher pour toi. Nous te glorifions, nous te louons. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Seigneur, puisse bénir ce matin. Gabriel Jean, s'il vous plaît.